L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, bien que je sois abandonnée par Madame Guylaine, qui doit se promener quelque part en Afrique, je ne sais plus dans quel pays, mais je crois que c'est quand même dans l'Afrique que je connais le mieux, c'est qui est celle de l'Ouest. Et donc, on va rester bien sûr en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, dans un pays que je connais bien et que j'affectionne particulièrement. Et j'ai vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Patrice Toé, qui est, s'il vous plaît, maître de conférence et d'anthropologie au département sociologie et économie rurale à l'université Nasi Boni de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Bonjour.
Bonjour Marie-Claude.
Donc, Patrice, j'étais très, très, très étonnée, enfin l'anthropologie, je sais que ça, voilà, mais de savoir qu'il existait aussi une anthropologie beaucoup plus spécifique à la sociologie et à l'économie rurale, bien que je connaisse le pays, que je sache combien l'engagement paysan est fort et combien c'est important la ressource paysanne. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord qui vous êtes, d'où vous venez, le village, enfin on sait bien que tout ça, c'est très important. Voilà, et comment on arrive d'un village dont vous allez nous parler, comment on arrive à être maître de conférences et d'anthropologie. Voilà, à vous.
Bien, je suis Patrice Toé, comme vous le dites. Je suis du Burkina Faso. Je suis sans. Donc, originaire de, si vous voulez, de la région de la boucle du Moon. Et plus précisément de la province de Nayala, et dans un petit village au sud de Toma, qui s'appelle voilà. Sien.
Voilà. D'accord. Oui, en sachant que bon, Sien, c'est proche de Sia, qui est le nom initial de la ville de Bobo, dans laquelle vous exercez votre métier. Oui, donc, votre ethnie, est, bon, et c'est vrai qu'il faut rappeler quand même que l'origine ethnique est importante chez vous.
Oui.
Parce qu'on en parlait hors antenne, là. À la fois, il y a vraiment toute cette richesse que vous possédez les uns et les autres, qui sont spécifiques, et comme des grandes familles, un peu. Hein, et en même temps, combien après un moment, il peut y avoir une unité, un regroupement, par exemple vous, votre, on va dire que globalement on appelle ça, on vous appelle les Samo, et j'ai appris récemment qu'en fait ça voulait tout et rien dire. Donc voilà, et c'est bien de nous dire votre origine et le village de, voilà, en sachant que Toma, il y a une association qui est pas loin d'ici qui s'appelait, elle, je crois qu'elle est dissoute, qui s'appelait l'association Jumelage Toma. On parlera de jumelage d'ailleurs, on a dit tout à l'heure.
Oui.
Voilà, alors expliquez-nous comment un petit garçon qui naît dans le village de, rappelez-moi le nom,
Sien,
comment un petit garçon, il fait pour arriver à être maître de conférence, j'aimerais savoir.
Ben, vous savez, comme tout jeune Africain, et, enfin pas comme tout jeune Africain, mais j'ai eu la chance, parmi donc les enfants africains de mon âge, d'aller à l'école, à 7 ans.
D'accord.
Donc, après l'école primaire, et je suis admis donc au certificat d'études primaires, et ensuite je suis allé au lycée, au CG de Tougan, où j'ai passé 4 ans, après donc mon BPC, que j'ai obtenu donc au CG de Tougan. Je suis allé à Ouagadougou pour la seconde, pour la seconde, ensuite le lycée Jean Dakabore, où j'ai fait, si vous voulez, le baccalauréat en 83. Après mon baccalauréat, donc, je suis rentré à l'université de Ouagadougou en sociologie.
En sociologie.
Alors, donc, d'accord. C'est là donc, je vais rencontrer donc, l'anthropologie par la suite. Donc, après une licence à Ouagadougou, je suis venu à Nantes pour faire une maîtrise à l'Université de Nantes. Donc après l'Université de Nantes, je me suis rendu donc à Paris, où j'ai fait donc les études de troisième cycle à l'École des hautes études de Paris, en sciences sociales.
En sciences sociales.
Voilà, donc où j'ai fait ma thèse avec un éminent professeur, Emmanuel Théré, en 1994. J'ai soutenu ma thèse. Voilà donc le parcours, n'est-ce pas, du...
Un très beau parcours.
N'est-ce pas?
En plus d'un des filières auxquelles on en reparlera, parce que c'est plus personnel, auxquelles je suis très sensibilisée. Mmh. Voilà, l'Institut des hautes études en sciences sociales, c'est vraiment un institut fabuleux. Donc voilà la trajectoire d'un village. Alors, ce qui m'a fait plaisir dans ce que vous dites et ce que j'ai envie de renvoyer aussi de ma place à moi d'étrangère, même si au Burkina je me sens chez moi, c'est quand même cette façon que vous avez de dire les uns et les autres, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment dommage que nos enfants ici, on a eu quand même, bon, Jules Ferry qui a fait une révolution, qui a quand même imposé que les gens, à l'époque, on avait même Charlemagne, beaucoup plus ancien, qui avait quand même fait faire des écoles. Donc il y a eu des préoccupations pour scolariser les enfants et on en arrive maintenant souvent à des enfants qui sont gavés, qui n'ont pas envie. Et ce qui est formidable dans le pays des hommes intègres, le vôtre, donc, c'est vraiment de voir combien quand les enfants ont les capacités et quand ils ont la chance de pouvoir y aller, comment ils investissent cette chose-là. Et du coup, effectivement, ça peut donner aussi juste beaucoup, beaucoup d'énergie avec l'intelligence qui accompagne, beaucoup d'énergie pour accomplir la trajectoire que vous avez accomplie. Et je dois dire qu'elle me fait envie, hein,
même. N'est-ce pas? Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident. Sur le lot, n'est-ce pas, de jeunes Burkinabés jusqu'à aujourd'hui qui vont à l'école primaire, il y a une petite minorité, on peut dire 1% qui atteint le niveau universitaire.
Tout à fait.
Donc ça veut dire que c'est une chance pour ceux qui arrivent à atteindre effectivement ce niveau, n'est-ce pas, d'avoir un parcours effectivement comme le mien. Alors donc je peux dire que c'est véritablement une chance.
C'est une chance, mais une chance à laquelle vous avez grandement participé.
Absolument, absolument.
Justement, ce que je disais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant que c'est une chance. Ce qui est dommage, c'est que justement, les jeunes qui ont la possibilité, ici, entre autres, dans notre monde occidental, n'aient pas cette notion que finalement, c'est une chance qu'on puisse choisir un métier ou une filière, etc., et qu'ils vivent ça comme des contraintes, alors que c'est au contraire l'ouverture, normalement, vers la vie d'adulte. Donc, on vous envie, même si ça n'a pas toujours été facile. Alors, il y a une chose qui me taraude, là, dont j'aimerais qu'on parle, c'est comment on peut arriver. Alors, la sociologie, voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a fasciné, mais bon, j'ai fait une autre filière parallèle à ça. L'Institut des hautes études en sciences sociales, franchement, moi, je suis une fan d'Elikam Bokolo, donc voilà. Et je rêvais même d'assister à ces séminaires à l'époque, mais c'était trop compliqué pour ma vie de mère de famille et de professionnelle. Et j'aimerais savoir comment la sociologie, après, elle amène justement à l'économie rurale.
Oui, la sociologie, comment ça amène à l'économie rurale? En fait, c'est pas... Moi, je suis, comme je l'ai dit, j'ai fait une thèse en anthropologie sociale et ethnologie, à l'école des études, des études. Si vous voulez, j'ai fait une thèse en anthropologie de développement.
De développement, d'accord.
Alors, du retour au pays, en 94, je suis recruté à l'Institut de développement rural. Qui forment des ingénieurs en agronomie, en zootechnie, en foresterie essentiellement, comme sociologue. Alors, naturellement, il n'y a pas une chaire de sociologie dans cet institut. Alors, donc, il faut quelque part, effectivement, aider. Vous savez que la formation des ingénieurs, pendant longtemps, s'est effectuée, effectivement, sans les sciences humaines. Alors, donc, ma présence, effectivement, à l'IDR, dans ces années 90, c'était effectivement pour aider, si vous voulez, à accompagner, n'est-ce pas, la formation des ingénieurs. Elle leur fournit, effectivement, cet outil, effectivement, si vous voulez, d'avoir cette capacité, effectivement, d'appréhender, n'est-ce pas, l'effet de développement. Donc voilà un peu. Et par la suite, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à cette conviction qu'il faut aller au-delà de cela. Qu'il faut créer un département au sein de l'Institut de développement rural, un développement de sociologie et économie rurale. Alors, donc des ingénieurs qui auront la formation de base effectivement en agronomie, en zootechnie, en foresterie, mais à qui nous allons donner effectivement, si vous voulez, des outils en économie, des outils en sociologie, et qui vont appréhender effectivement le développement, n'est-ce pas, de notre œil. Alors donc ça, c'est fut effectivement pour nous effectivement un parcours très très passionnant, et depuis 1998, nous sommes arrivés effectivement à mettre en place effectivement ce département, qui constitue donc le quatrième département, n'est-ce pas, de l'Institut de développement rural, et qui forme des ingénieurs en sociologie et économie rurale. Voilà un peu comment l'anthropologie effectivement a conduit effectivement à l'économie rurale. Alors donc avec des collègues, des économistes, sociologues, nous sommes parvenus effectivement, et aussi les collègues, n'est-ce pas, des sciences dures, puisque ils concourent aussi surtout à la formation effectivement des, si vous voulez, des ingénieurs. Voilà comment on est arrivé effectivement à mettre ce produit nouveau sur le terrain qui se porte très bien, hein, qui si vous voulez ne vont pas appréhender le développement, n'est-ce pas, de la même manière que l'agronome qui sort, si vous voulez, qui avance sans porter des gants, mais qui ont un recul, qui ont un regard, un autre regard effectivement sur le développement, et qui avance, comme je l'ai dit, effectivement en portant des gants. Donc c'est une approche nouvelle, n'est-ce pas, des faits de développement. Je crois que c'est vraiment passionnant. Je crois que je peux dire que nous avons réussi. Quelque part.
Et je vous félicite, je veux dire, vous êtes quand même vraiment pionnier. Et moi, quand même, qui suis une professionnelle des sciences humaines, j'ai été très attirée par ces titres et, voilà, et cette spécificité. Et je suis ravie de voir que, quand même, on peut aussi, dans notre monde moderne, ne pas être qu'un pur scientifique et qu'on peut, à une science plus objective, plus matérielle, plus concrète, on peut ajouter la dimension humaine, qu'on aurait ajouté d'ailleurs à beaucoup de nos sciences par ailleurs. Et franchement, félicitations.
Merci.
Félicitations.
Merci. Et surtout en plus que le monde rural aujourd'hui a évolué énormément en Afrique.
Tout à fait, tout à fait.
Et nous sommes dans ce que j'appelle effectivement de la nouvelle ruralité. L'Afrique, c'est pas l'Afrique des aujourd'hui, c'est pas l'Afrique des années 60. Ouais. Alors donc le monde rural effectivement a beaucoup changé et il y a des dynamiques nouvelles. Alors donc, il faut effectivement avoir un regard nouveau effectivement sur cette Afrique en mutation.
Tout à fait. Alors moi j'ai envie simplement de vous dire, de citer quelques exemples. Alors ça m'est venu comme ça, puis hier soir j'ai eu encore une nouvelle. Donc j'avais envie de faire partir de Thomas Sankara avec ses projets avec Pierre Rabhi, dont Pierre Rabhi était venu parler d'ailleurs ici, d'agroforesterie. Voilà, il y avait déjà cette vision à l'époque, bon, qui est peut-être... Et il paraît qu'il y a des choses qui se sont continuées d'ailleurs malgré sa disparition. Ensuite, j'avais envie de vous parler évidemment de Yacouba Savadogo, qui a réintroduit, enfin réhabilité le SAI, justement, voilà, et qui vient de finir là avec le prix Nobel alternatif 2018, quand même, et tout ça, ce sont des Burkinabés. Et puis, hier soir, il se trouve qu'en consultant des documents, j'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est un jeune alors, un Serge Auguste Zaongo, qui est lauréat, je ne sais pas si vous êtes au courant, du prix FMI Challenge. Challenge App 2018, et qui a créé une solution d'optimisation de l'irrigation automatisée des plantations dans les territoires du Sahel avec un système embarqué autonome. Et tout ça, ce sont effectivement des personnes. Hein. Ce que je viens de citer, c'est quand même à l'initiative de personnes. Et on revient à cette dimension humaine dont vous, après, vous faites vraiment le porte-parole et que vous intégrez vraiment dans vos enseignements. Parce que c'est ça qui est important aussi.
Ce
n'est pas uniquement d'avoir réussi à vous regrouper et à gagner ce challenge, c'est aussi de le transmettre maintenant à vos jeunes. Et j'espère, moi qui suis vraiment une amoureuse de votre pays en plus, j'espère que vraiment vous allez vraiment décoller à ce niveau-là. Ça va aussi vous permettre d'avoir des gens compétents et pourquoi pas des consultants qui seront un peu appelés un peu partout pour justement diffuser cette bonne parole et puis peut-être créer des émules dans les universités pour qu'il y ait des unités un peu comme la vôtre.
Absolument, absolument.
Voilà. Parce que ça, vraiment, chapeau quoi. Et on sait bien en plus que le paysan, on sait bien que la paysannerie a toujours eu de l'importance. Moi, on m'a toujours appris en histoire que la paysannerie, souvent, avait été à l'origine des révolutions, entre autres, quand ça n'allait pas. On sait bien que ce sont les paysans qui nous nourrissent. On sait bien qu'actuellement, même s'il y a des multinationales, etc., c'est quand même essentiellement, il y a un pourcentage énorme, je l'avais dit une fois ici, un pourcentage énorme de paysans, de paysannerie qui nourrissent le monde. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas les grosses machine comme ça. Donc, de pouvoir introduire cette dimension anthropologique, sociologique et humaine, chapeau. Voilà.
Oui, surtout dans un pays comme le Burkina, où l'économie repose essentiellement sur l'agriculture.
Absolument,
hein. Nous avons 80% de la population effectivement qui vit de l'agriculture. Mmh. Alors donc c'est ce genre de dynamique effectivement qu'il faut, sur lesquelles il faut qu'il faut vraiment mettre l'accent et faire en sorte effectivement que l'agriculture puisse effectivement prendre un nouveau départ. Hein,
et une nouvelle valeur et aussi aux yeux des gens, aussi, que les gens y croient. Oui, oui.
Ah oui,
les jeunes paysans, que voilà, j'ai vu dans des États où qui ont cru à plein de choses et qui maintenant reviennent. On a vu les procès qui ont été faits, entre autres, à Monsanto et tout ça. Chez vous, il y a quand même cette prise de conscience. Donc c'est bien que vous puissiez, au fur et à mesure, diffuser cette bonne parole. Hein, donc j'espère que ça va vraiment vous aider à continuer à avancer. Et en tout cas, félicitations, parce que, voilà, comme quoi la volonté humaine, elle est créatrice, hein, créatrice de nouveautés, créatrice d'espoir, etc. Donc, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose par rapport à ça? Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à se dire, mais est-ce que vous auriez autre chose à nous dire, un message à nous transmettre
Par rapport à... Au milieu rural, au développement agricole, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui en Afrique, nous avons publié d'ailleurs un ouvrage intitulé « L'éveil des campagnes africaines », qui montre effectivement que cette dynamique nouvelle effectivement du milieu rural effectivement est à prendre en compte. Parce que si vous allez aujourd'hui dans les campagnes africaines, on n'est plus toujours à la daba. Donc il y a cette technologie effectivement qui commence à rentrer effectivement dans le système économique rural. Et là, les paysans ont besoin effectivement de formation, de renforcement des capacités énormément et surtout d'accompagnement.
D'accompagnement.
Ouais, surtout d'accompagnement. D'accord. C'est ce dont ils ont besoin. Sinon, aujourd'hui, on peut dire effectivement, sur ce plan, effectivement, beaucoup de choses ont évolué, n'est-ce pas, sur le continent.
D'accord. Et donc, vous avez parlé d'un ouvrage paru, L'éveil des campagnes africaines. Ça met l'eau à la bouche, ça. C'est chez quel éditeur vous avez...
Chez L'Harmattan.
Chez L'Harmattan, oui, éditeur classique. Donc, on peut se le procurer éventuellement chez L'Harmattan.
Oui.
D'accord. C'est un ouvrage collectif.
C'est un ouvrage que j'ai publié avec un de mes aînés sur l'expérience, si vous voulez, de mon village, des villages effectivement, des paysans, des populations effectivement qui prennent leur destin en main. Ça, c'est une expérience qui est très bonne à partager.
D'accord. Ben le pays a la chance de vous avoir, donc. Comme vous avez la chance d'appartenir à ce pays, parce que voilà. Visiblement, il y a quand même des
gros... Une expérience qui est portée, n'est-ce pas, par une association qu'on appelle ADESI.
Oui, ADESI.
ADESI, Association pour le développement du village des siens, qui est une expérience effectivement très riche, comme je l'ai dit, effectivement, qui est porteuse, en tout cas, de pas mal d'espoir pour les populations du village.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des regroupements comme ça, régionaux, ou dans la sous-région ça a commencé un petit peu, les regroupements de paysans, justement, pour diffuser un petit peu ces choses-là, ou est-ce que ça reste encore très, très localisé?
Il y a pas mal de regroupements de paysans. Vous savez, les paysans sont de plus en plus organisés à travers des groupements, à travers de plus en plus même au niveau de nos États. Il y a cette volonté effectivement d'organiser les populations au niveau, n'est-ce pas, des chambres d'agriculture, des confédérations et toute forme, n'est-ce pas, d'associations qui puissent effectivement aider, si vous voulez, au renforcement des capacités des paysans. Mais il y a aussi cette forme, comme je l'ai dit, endogène, beaucoup plus endogène, de populations qui se regroupent, n'est-ce pas, au sein d'associations beaucoup plus locales, de développement local, de villages, de régions, de départements, et qui sont portés, si vous voulez, par des ressortissants, des natifs, n'est-ce pas, des villages, des régions, et qui sont quand même très, très dynamiques sur le terrain, et qu'on voit un peu partout, n'est-ce pas, au Burkina.
D'accord. Et ça, vous pouvez vous approcher de ces gens-là, vous pouvez un peu être quand même aussi une personne, des personnes ressources, enfin, ou pas
Mais naturellement, nous sommes, si vous voulez, de par notre formation, on fait souvent l'accompagnement. En tant qu'anthropologue, nous, notre rôle, effectivement, aussi, c'est d'accompagner, effectivement, ces groupements. Et c'est de les aider, effectivement, vous savez, par notre posture, on peut dire que nous jouons un peu le rôle, n'est-ce pas, de courtier, donc, quelque part. Donc, il faut aider, effectivement, ces associations, effectivement, à avancer et à réussir, effectivement, des projets. Hein. Ça, c'est aussi des services qu'on peut rendre, effectivement, aux populations à la base.
D'accord, donc vraiment la science, la connaissance au service de la ruralité. Ouais. Je trouve que vraiment on est dans une situation très très riche, quoi. Hein, et j'espère que ça va aider un petit peu le pays, parce que j'ai bien connu des espoirs transformés en désespoir, notamment avec à un moment la politique cotonnière que la coopération française avait initiée, que les jeunes dont les jeunes se sont emparés puis se sont retrouvés après complètement coincé avec des histoires de famine, etc. J'ai connu tout ça. Et j'espère, et c'est bien qu'il y ait quand même quelque chose d'un peu porteur là maintenant, qui est ce sursaut. Ce sursaut étant un sursaut d'abord, je dirais, international. Et en Afrique, on le voit aussi. On le voit au Mali, on le voit dans d'autres pays. Et donc particulièrement au Burkina, qui est un pays quand même très, comme vous disiez, très, très agricole. C'est-à-dire, moi, je trouve les richesses du pays, outre la richesse de ses habitants, c'est vrai que c'est la richesse rurale, puisque quand même, à un moment, on savait bien qu'il pouvait y avoir une autosuffisance alimentaire. À un moment, elle a disparu, mais j'espère qu'elle va bien, bien revenir. Et puis sinon, il y a tout le côté culturel, effectivement. Et puis depuis quelques temps, et ça, c'est pas très joli, par contre, c'est que vous avez des mines d'or, voilà, ça... Voilà, ça fait partie des identifications de richesses dans votre pays. Mais je dirais que l'agriculture est la première, et quand même la culture, parce que vous êtes une référence à l'international aussi.
Oui,
voilà. Donc, tout à fait. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour la fin de l'émission, là, Patrice Toé? Non?
Juste pour ce qui est de l'agriculture, surtout de la culture du coton. C'est vrai que le coton au Burkina Faso demeure une production essentielle, parce que l'agriculture repose quelque part, effectivement, si vous voulez, l'essentiel des devises, effectivement, repose effectivement sur la culture du coton. Mais le coton reste quand même, si vous voulez, un peu problématique comme culture, comme vous le dites si bien, effectivement,
très, très
il a une histoire très, 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 très ancienne. Et je suis, personnellement, j'ai mon point de vue personnel sur la culture du coton. Je suis pas. Moi, je suis d'une famille et. J'ai grandi avec mes grands-parents. Mon grand-père n'a jamais fait du coton. Il n'a jamais fait du coton. Et les quelques souvenirs que j'ai, même quand il voyait le coton pousser dans notre champ, il prenait son temps d'arracher la plante. Il s'arrêtait pour faire un petit cours. Hein, un petit cours à mes oncles qui étaient là, pour leur dire que de son vivant, il ne souhaiterait pas avoir du coton dans son champ. Alors, pour dire que je n'ai pas connu le coton dans notre exploitation, mais c'était une exploitation effectivement autosuffisante.
Tout à fait.
Et c'est après la mort de mon grand-père que mes oncles sont mis à faire du coton. Alors, on peut dire aussi que c'est dans l'air du temps. Vous savez que.
Bien sûr,
naturellement, vous savez, aujourd'hui, le coton, c'est la seule revenu aujourd'hui, la seule ressource, la seule culture, effectivement, qui peut procurer de la ressource, n'est-ce pas, aux paysans. Alors, donc, ils sont mis dans l'air du temps à faire du coton, mais avec tout ce que s'en suit comme inconvénient,
parce
que
ce
n'est pas évident, avec tout ce que on ne maîtrise pas, n'est-ce pas, aujourd'hui, la pluviométrie, tout ça. Donc, ça pose énormément, effectivement, un peu de difficultés. Ce qui fait, effectivement, que le coton connaît un peu de difficultés aujourd'hui à l'échelle nationale.
Oui, c'est sûr.
Quelque part.
Et surtout que le coton burkinabé est très réputé, que vous avez avez le Dame Fanny quand même qui est réputé.
Ah oui, ça
vous
c'est.
Vous avez du très beau coton.
Absolument,
très beau...
absolument. Mais là, ça, il faut une politique nationale effectivement pour mettre en valeur effectivement ce si vous voulez ce le
tout à fait.
La production. Mmh. Le problème du coton, c'est ça, parce que nous on produit, nous le transformons pas. Et vous savez, comme vous le dites, effectivement, nous sommes très très attachés effectivement aux façons d'Dame Fanny. Et malheureusement, on n'a pas de structure de transformation comme ça de cette production effectivement au Burkina. C'est ça qui fait que qui rend un peu difficile effectivement l'économie, une économie basée effectivement sur ce type d'exploitation.
D'accord. Donc, on va dire, soyons attentifs à la production du coton. Et puis, je vous remercie de nous avoir fait part de cette expérience qui est vraiment une expérience qui me ravit personnellement, mais je pense qu'il va intéresser beaucoup de nos auditeurs et cet aspect novateur quand même d'intégrer les sciences humaines à la... Parce que c'est quand même les humains qui sont nourris par les paysans. Donc, restons là-dessus. Je vous remercie. Je remercie les auditeurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine et je leur fais part aussi, s'ils veulent écouter l'émission ou la réécouter en podcast, vous pourrez l'écouter en vous mettant sur le site de radiofmplus.org, www.radiofmplus.org. À la semaine prochaine, au revoir, merci à tous. Do you have a genie?
en dessinant l'air.